for this.
Mourir pour des idées, c'est une chose, mais c'est quand même relativement stupide et bête. Stupide et bête.
Stupide et bête.
Quel régime démocratique? Oui, tu peux toujours parler, ils t'entendent pas. La démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule.
Cause toujours, et ferme ta gueule.
Aujourd'hui, dans Regain de Tension.
Si on a une mobilisation qui est non violente, on tient à ce qu'elle le reste. On tient à ce que les personnes qui sont avec nous restent non violentes. Les forces de l'ordre sont, entre guillemets, désarmées face à la non-violence, qui sont préparées à répondre à la violence. Pour nous, le but, c'est d'avoir des mouvements de désobéissance civile de masse.
La policía local nos acababan a las familias como si fuéramos unos delincuentes y en realidad nosotros no hemos robado nada.
On est tous en cellule, mon petit pote, toi, moi, tout le monde. La vie est une prison.
Pourquoi, en fait, l'agglomération de tous ces mécontentements a pu se faire aussi facilement? Parce qu'elle s'est faite sur l'identité bretonne.
D'abord, on lutte avec sa tête. Parce que justement, ce que je reproche souvent à cette lutte en Bretagne, enfin la cause bretonne, c'est d'être trop plein d'affect.
C'est très important pour nous de savoir que lorsqu'on sera dans la banque, ou même devant, ou à la sortie, on peut se faire confiance, on peut compter les uns sur les autres.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous Regain de Tension, l'émission des étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion. C'est notre deuxième émission consacrée aux mouvements sociaux, dont la première, on vous a parlé de la violence d'État. Cette fois-ci, on vous en dit plus sur les formes de lutte alternatives. Je suis toujours accompagné de Marianne Védi. Bonjour Marianne.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous êtes sur RCF Finistère, branché sur le 89 FM à Brest. Pour vous, on a encore fait le plein d'interviews, de reportages et de chroniques. Marianne, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Eh bien Hugo, dans l'émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux indépendantistes bretons dans un long reportage préparé par Yann Thézé et vous-même. Et comme le Front de Libération de la Bretagne est quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez aussi réalisé l'interview d'un ancien indépendantiste breton et d'un ancien gendarme avec Anthony Rio. Nos envoyés spéciaux à l'étranger vous ont préparé un reportage sur les expulsions madrilènes. Mais avant ce programme, on accueille Naïla Daleb autour de la table pour l'éditorial de la rédaction. Bonjour Naïla.
Bonjour Marianne.
Alors dites-nous tout, en quoi la non-violence est-elle politique? Et quelle est sa place dans les luttes actuelles?
Eh bien, la non-violence est hautement politique. Ce mode d'action a été utilisé par de nombreux activistes à travers l'histoire pour défendre des causes variées. Les plus connus étant certainement Gandhi et Martin Luther King. Choisir d'être non-violent, c'est refuser un mode d'action qui pourrait blesser l'autre dans son intégrité physique ou morale. En optant pour des stratagèmes non violents, qui sont variés, vous le verrez dans le reportage à suivre, les activistes montrent qu'ils ont réfléchi aux impacts de leurs actions, aussi bien pour leurs adversaires, les forces de l'ordre ou les patrons de multinationales pétrolières comme Apo en avril dernier, que pour l'opinion publique. En France, la non-violence est prônée par de nombreux collectifs, dont plusieurs sont réunis au sein du MAN, le Mouvement pour une alternative non-violente. Ils défendent des causes allant de la protection de l'environnement à la lutte contre les inégalités. La question du recours à la violence, et donc en creux à la non-violence, est régulièrement posée en ces temps de lutte contre la loi travail. Que faire? Maintenir une protestation pacifique au risque de passer pour des bisounours, à l'instar des militants de Nuit Debout qui ont longtemps eu l'air de doudingues utopistes, notamment à cause du regard porté sur eux par les médias, ou recourir à la force physique, quitte à être taxé de dangereux et menaçant pour l'ordre public? Et si la question devait être posée autrement? Un zadiste rencontré à Notre-Dame-des-Landes souhaitait, lui, réfléchir en termes de stratégie. Qu'est-ce qui est malin et pourrait faire avancer la cause que l'on défend? Les militants ont à leur disposition un ensemble de modes d'action à mobiliser au bon moment.
Merci Naïla, on va poursuivre sur la non-violence, donc restez avec nous, car vous avez réalisé un reportage avec Marianne Védi. Vous vous êtes intéressés toutes les deux à ce mode d'action utilisé par certains collectifs. Pour beaucoup, la non-violence permet de diffuser plus efficacement son message, notamment au sein des associations écologistes. Vous avez rencontré un activiste rennais pour comprendre ce qui fait la force de la non-violence.
On rend ces chaises, on les rend à la justice, le jour de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac.
Romain Poirier est membre d'Action Non-Violente COP21 à Rennes. En Bretagne comme partout en France, cette association écolo a volé des chaises dans des banques pour les rendre à Paris lors de l'ouverture du procès de Jérôme Cahuzac et dénoncer le système de l'évasion fiscale. Il raconte comment se passe une réquisition.
Une fois sur place, donc l'action durait à peu près 3 minutes, ça dépend après des banques. À Rennes, ça a dû durer 3 minutes environ. On a pris des chaises, on est reparti. Très calmement, on est rentré dans l'agence, une personne est allée voir la dame de l'accueil, lui expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on venait. D'autres personnes sont allées réquisitionner des chaises, les ont sorties pour qu'on fasse des photos devant la banque en même temps. On avait une personne qui était à l'extérieur avec le message sur une grande banderole. Tout ça est très coordonné vu qu'on a des personnes qui s'assurent que tout aille dans le bon ordre.
Pour s'assurer du bon déroulement de l'opération, les militants sont choisis avec soin, car la non-violence s'apprend.
On contactait uniquement les personnes qu'on savait non-violentes, des personnes en qui on pouvait avoir confiance, parce que c'est très important pour nous de savoir que lorsqu'on sera dans la banque, ou même devant, ou à la sortie, on peut se faire confiance, on peut compter les uns sur les autres. Il ne faut pas qu'on puisse se dire « tiens, cette personne, je ne sais pas si elle va mal réagir et commencer à être violente ». Que ça soit par un geste, un regard.
La non-violence est un mode d'action à part entière. Plus que les manifestants pacifiques qui lèvent les mains pour montrer qu'ils ne sont pas menaçants, les militants non-violents anticipent les réactions de leurs adversaires et cherchent par tous les moyens à les mettre en confiance. Pour Romain Poirier, la non-violence déstabilise les forces de l'ordre. D'après lui, ces méthodes apaisantes permettent même d'échanger avec les policiers venus les déloger.
Les forces de l'ordre sont entre guillemets désarmées face à la non-violence. Qui sont préparés à répondre à la violence. Face à la non-violence, ils ne savent pas forcément comment répondre, donc parfois ils répondent quand même avec du gazage ou du matraquage, mais comme on a pu le voir à Pau, il y a des moments où ils ne savaient pas du tout comment répondre, et du coup, ils restaient en retrait.
Les manifestations récentes contre la loi travail connaissent de forts affrontements entre la police et les manifestants. Lors de la manifestation du 9 avril, Aissatou Dabo explique que la coordination nationale étudiante a décidé de ne pas distinguer casseurs et manifestants pacifiques. Une vision de la contestation que Romain Poirier ne partage pas.
On refuse qu'il y ait une division et qu'on appelle ces gens-là des casseurs et des manifestants normaux. Non, il y a nous tous ensemble, tout un bloc qui veut faire reculer le gouvernement face à cette loi.
J'entends ce qu'a dit, je le comprends quelque part, mais... Si on a une mobilisation qui est non-violente, on tient à ce qu'elle le reste. On tient à ce que les personnes qui sont avec nous restent non-violentes. Le fait de nous imposer des lois qui sont pas justes pour les citoyens, d'imposer des grands projets inutiles et j'en passe, tout ça, c'est extrêmement violent. Et parfois, les gens ne savent pas comment réagir à ça. Ils vont essayer de diffuser leur message comme ils peuvent. Mais pour nous, c'est très clair qu'il faut être non-violent et à visage découvert. En fait, on assume ce qu'on fait. On le revendique, c'est pas un problème.
Cette distinction systématique entre manifestants normaux et casseurs est véhiculée par nos dirigeants et la plupart des médias. En se désolidarisant systématiquement des modes d'action violents, les militants participent eux aussi à la division de la lutte.
Rares ont été les conflits sociaux sans violence. Aujourd'hui encore, les revendications contre la loi travail sont omniprésentes. Mais on peut se demander si la fin de certains mouvements sociaux aurait été possible sans des actions plus virulentes, comme le projet de centrale nucléaire de Plogoff ou encore la grève du juin français. Dans quelques minutes, c'est l'heure de notre revue de presse historique que vous nous présenterez, Marianne. Vous nous parlerez du juin français. La lutte fut très violente, on le sait, mais les employés et les producteurs locaux ont su s'entraider. Mais avant de vous retrouver musique, on écoute L'amour et la violence de Sébastien Tellier.
Dis-moi ce que tu penses. Moi, j'aime. jour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence.
C'était L'amour et la violence de Sébastien Tellier. Vous êtes toujours sur Regain de Tension, l'émission des étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion. On est toujours sur RCF Finistère, 89 FM à Brest. Maintenant, place au voyage dans le temps avec vous, Marianne. On est en 1972 et vous allez nous parler d'une lutte emblématique en Bretagne, la grève du Joint français à Saint-Brieuc.
Tout à fait, Hugo. Le Joint français était à l'époque une des 114 filiales du groupe CGE, la Compagnie Générale d'Électricité. La firme s'installe à Saint-Brieuc en 1962 et on parle déjà de décentralisation industrielle. Mais c'est 10 ans plus tard, le 13 mars 1972, que débute la longue grève du Joint français. Les revendications portent essentiellement sur une égalisation des salaires avec ceux de la maison mère de Beson, dans le Val d'Oise, supérieure d'environ 20% à travail égal.
Si d'un seul coup disparaissaient les joints, la vie deviendrait impossible. Il nous faudrait les réinventer car sans eux, pas de transport possible des fluides. Qu'il s'agisse du simple robinet d'eau, du détendeur de la bouteille de gaz, des circuits de votre auto, de ceux de la grosse locomotive, de l'avion à réaction ou de la fusée spatiale, partout la présence du joint est indispensable, mais évidemment sous des formes, des dimensions et des qualités bien différentes.
Alors, chers camarades,
devant l'usine occupée par les gendarmes mobiles, chaque matin depuis 5 semaines, les grévistes viennent aux nouvelles. Ils attendent un geste, une parole de la direction. Mais les patrons sont à Paris et les ponts sont rompus. À l'origine de cette grève totale, la durée du travail et les salaires. Les syndicats demandent une augmentation horaire de 70 centimes et un 13e mois pour les 1000 ouvriers, en majorité des femmes.
Dans ce bâtiment qualifié à l'époque d'ultra-moderne, un millier de travailleurs, des anciens paysans, pêcheurs venus chercher du travail à la ville. Pour tous, des bas salaires et la déception devant cette nouvelle vie. Un ouvrier spécialisé du Joint français touche entre 800 et 1000 francs par mois pour 47 heures de travail par semaine. En mai 68, les syndicats font leur apparition, les ouvriers ne veulent plus se laisser marcher sur les pieds et parlent même d'esclavage.
Quelle est l'ambiance dans l'usine au Joint?
Eh bien l'ambiance, c'est-à-dire que nos supérieurs nous prennent pour des petites bêtes, qu'il faut courir, si on ne court pas assez vite, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas apte à rester dans une usine, c'est ce que je peux entendre. Moi. Et puis que le plus vite qu'on crève, eh bien c'est facile.
Pourquoi n'y avait-il pas de conflit avant, au début, lorsque l'usine était créée?
Il n'y a pas de syndicat, ça n'existait pas. C'était pas le but de demander une augmentation ou quoi?
Ben, c'est bien difficile de toucher un patron quand on est un ouvrier. Et il faut quand même d'avoir quelqu'un qui nous représente auprès d'un patron pour pouvoir avoir...
La discipline est dure dans l'usine?
Pour moi, personnellement, elle est très dure.
Vous n'avez pas l'impression que faire cette semaine de grève, c'est peut-être une erreur?
Non, au contraire. Nous sommes des petits Bretons, nous tenons justement à convaincre des patrons inutiles dans un pays comme ça, parce qu'on ne tient pas du tout à être appelé des sous-développés, des andouilles, des pauvres cons, des esclaves. Je tiens ma parole, je dis en esclave. Nous voulons bien travailler, bien au contraire, mais on tient aussi à être estimé, aussi bien avec un patron comme un chef d'équipe. On a droit à la politesse comme eux autres.
Décentralisation mal comprise, politique des bas salaires et direction éloignée qui ne participe pas à la vie de la région, à Paris, le directeur général répond.
Le vrai français est venu dans des conditions données, avec des niveaux de salaire donnés dans une région donnée, il y a maintenant 10 ans. Je crois que toujours se référer au passé n'apporte rien sur la situation présente. Je pense que nous souhaitons c'est faire tourner cette société, et il y a quand même 2 impératifs. Il y a bien entendu que le personnel travaille dans des conditions données, mais également il y a à maintenir en vie cette société. Et il est certain que si les demandes dépassent de loin les possibilités de la société, ben, la société n'est plus viable. Par conséquent, l'emploi disparaît. Et à ce moment-là, si ces demandes sont trop exagérées, ce n'est pas de notre fait. Il y a peut-être également des demandes qui montrent un manque de compréhension de l'équilibre d'une société.
Alors que la situation financière est présentée par la direction comme désastreuse, les syndicats CGT et CFDT réclament une réduction du temps de travail sans perte de salaire. Un alignement de ce salaire sur les autres usines du Jean français et l'octroi d'un 13e mois. Devant l'absence de réaction de la direction, les ouvriers votent la grève illimitée. Cette grève reçoit très vite un soutien médiatique, puis un soutien populaire.
Chaque semaine, les grévistes ont reçu des dons en argent, 100 ou 150 francs, aujourd'hui 200. Des comités de soutien se sont créés dans les villes et les cantons. L'argent est venu de toute la Bretagne. Crédit important ouvert par les municipalités ou billets anonymes glissés dans une enveloppe. Chaque jour, des collectes ont été faites aux portes des églises, dans les usines, les magasins, les fermes et les ports de Bretagne. Des manifestations ont regroupé à Saint-Brieuc 8 000 puis 10 000 grévistes, paysans et ouvriers venus des Côtes du Nord, du Morbihan ou du Finistère. Tous les partis politiques, des gauchistes à l'UDR, ont condamné l'attitude de la direction du joint.
7e semaine de grève, 7e semaine de solidarité.
De la faim. Le clergé aussi a pris position. À Saint-Brieuc, dans la cathédrale, pendant la grand-messe de 11h, l'un des 51 prêtres signataires d'une lettre de soutien aux grévistes a invité les deux parties au dialogue.
Il ne s'agit pas de n'importe quels hommes, mais des hommes concrets, dans une ville concrète, qui connaît aujourd'hui des problèmes concrets avec le conflit du joint français que nous vivons actuellement. D'une ville où il est peut-être difficile, j'en conviens, d'être chef d'entreprise, mais où il est plus difficile encore, je pense, de vivre la condition ouvrière en cette trop longue grève du juin qui continue d'attrister notre communauté, la ville de Saint-Brieuc et la région tout entière.
Mais les plus acharnés à montrer cette solidarité sont les agriculteurs. Depuis le début de la grève, chaque semaine, ils apportent des camions de viande et livrent gratuitement des légumes, du lait, des œufs ou du beurre qui sont par la suite distribués selon le besoin des familles. On retrouve aussi des artistes comme Claude Nougaro, Triane ou encore Gilles Servat qui manifestent leur soutien par des concerts. Après 8 semaines de grève, la direction s'engage à harmoniser progressivement les salaires des ouvriers de Saint-Brieuc sur ceux du reste de la France, mais n'accorde pas le 13e mois demandé. Le 8 mai 1972, les ouvriers votent la reprise du travail. Ce conflit d'une exceptionnelle longévité se singularise par l'ampleur du soutien de la population et souligne à ce titre l'importance du sentiment d'identité bretonne.
On referme la page du juin français, mais on reste dans les années 70, Marianne.
Oui Hugo, cette fois-ci on ne va pas parler de lutte salariale mais de lutte identitaire, la cause bretonne. Hugo, vous étiez accompagné de Yann Thézé pour ce reportage. Vous allez nous parler du FLB, d'EMGAN, de l'UDB. Ces organisations ont milité à travers les années pour la reconnaissance et le développement de la langue bretonne. Durant les années 80, quand le FLB était encore en action, plusieurs centaines d'attentats à la bombe ont été commis. Depuis, la lutte n'est plus radicale, elle passe désormais par les urnes, mais ce processus a pris du temps. C'est ce que vous allez nous expliquer, Yann et Hugo.
Rock Trédudon, 1h10, deux explosions. Les 220 mètres du pylône de l'émetteur de télévision s'écrasent sur les bâtiments abritant les installations de l'ORTF et des PTT. L'attentat est signé FLB-ARB. Il a suffi de deux pains de plastique placés par les professionnels pour que plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs de l'Ouest soient complètement privés d'images et de sons. On peut considérer comme un véritable miracle que cet attentat n'ait pas fait de victimes à l'heure même où il s'est produit.
Poser des bombes, c'était un moyen de l'armée révolutionnaire bretonne, la branche armée du Front de Libération de la Bretagne, de se faire entendre entre les années 60 et les années 2000. Leur objectif, défendre les intérêts des Bretons. Un combat qui n'est pas sans rappeler d'autres luttes en France ou en Europe. C'est le cas de l'Irlande, avec l'armée républicaine irlandaise et le Sinn Féin. Pour Erwan Chartier, journaliste et spécialiste des luttes bretonnes, c'est le pays qui a servi d'exemple au mouvement breton.
Dans les années 70, on est vraiment dans ce modèle-là, même s'il y a vraiment des particularités bretonnes aussi, parce que la situation n'est pas la même, évidemment, en Irlande du Nord qu'en Bretagne à l'époque. Mais on a la volonté, ce qui est nouveau, de lier les questions sociales. Il y a beaucoup de conflits sociaux en Bretagne dans les années 70, notamment la grève du juin français à Saint-Brieuc, où c'est le premier conflit social au début des années 70, où on voit des drapeaux bretons et des drapeaux rouges dans les manifs ensemble. Et d'ailleurs, l'une des principales revendications des ouvriers du juin français était d'être payés autant que leurs homologues en région parisienne.
Le FLB n'était pas le seul groupe à revendiquer la cause bretonne. EMGAN, Union démocratique bretonne, ou encore Brésistance, ont également joué un rôle pour une émancipation de la Bretagne. Une différence, une bataille plus politique. Selon Nike Le Gars, ancien membre d'EMGAN et aujourd'hui encarté à l'UDB, après un engouement, le FLB a beaucoup souffert de l'arrestation de ses militants.
Il y a eu la grande vague des années 70. Après, ils ont arrêté donc beaucoup de monde. Après, donc, quand ça a repris un peu en 80, ça concernait vraiment très très peu de monde. Donc une fois que ces gens-là ont arrêté, il n'y avait plus rien. Et puis parce que c'était, voilà, je pense qu'on était passé à autre chose politiquement. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, on demandait l'amnistie pour les prisonniers politiques. On demandait aussi la suppression des tribunaux d'exception. Et donc, une fois cette amnistie obtenue, et la fin du tribunal, je ne sais plus comment on appelait ça, Cour de sûreté de l'État, voilà, la Cour de sûreté de l'État. Et une fois ça aussi supprimé avec l'arrivée de Mitterrand, d'ailleurs on a tout eu, parce qu'il y a eu en même temps Plogoff, ça a été un peu un moment d'état de grâce, de liesse, avec tous ces prisonniers politiques qui sortaient de prison, avec aussi la grande émulation que ça avait suscité, on se pensait que, ben voilà, on pouvait quand même ouvrir des portes, quoi. Donc le comité s'est dissous de fait et tous les gens qui se trouvaient dans ce comité amnistie et les prisonniers politiques étaient libérés, c'est là qu'on a créé EMGAN en 82.
Alors que l'ARB existe encore, EMGAN reprend le flambeau de la lutte bretonne, cette fois-ci plus de bombes mais des actions coup de poing dans l'air du temps. Des militants plus jeunes mais toujours aussi déterminés, la lutte prend un nouveau visage. Celui qui a bien connu cette période, c'est l'ancien porte-parole d'EMGAN, Gaël Roblin.
Les militants d'EMGAN, c'était une bande de fous qui disaient bon, on a eu l'amnistie en 81, mais on a eu un certain nombre de choses qu'on n'a pas eues, notamment l'unité territoriale de la Bretagne, notamment le statut de co-officialité pour la langue bretonne. On l'a pas eu, donc il faut reprendre la lutte par tous les moyens, donc les moyens légaux et les moyens illégaux, par la désobéissance civile. Quand on dit moyens légaux, c'est pas forcément des choses, c'est pas forcément poser des bombes, mais en gros, c'est le petit groupe avant-gardiste, coupé des masses, qui sait qu'il va jamais prendre le pouvoir, mais qui, dans la nuit des années 80-90, maintient la revendication indépendantiste, radicale, bretonne, vers plus de justice sociale et environnementale, et n'a pas peur d'utiliser certains mots. Le mot indépendance, le mot nation, on faisait des campagnes de graffiti avec marqué « Bretagne égale nation », et on en foutait partout.
De la peinture à la place des bombes, il n'est plus question d'attentat. Parmi plusieurs raisons, en avril 2000, une employée de 28 ans du McDonald's de Quévert meurt lors de l'explosion d'une charge de dynamite. Un matériel provenant d'un vol survenu 7 mois plus tôt à Plévin, une commune proche de Carhaix dans les Côtes d'Armor. Un vol commis entre autres par des indépendantistes bretons. Trois suspects vont comparaître devant la justice mais seront acquittés. Erwan Chartier.
il n'a jamais été revendiqué. Par contre, ça a entraîné une grosse réflexion dans la gauche radicale indépendantiste sur les dangers de l'action clandestine, parce que c'est vrai qu'en manie ce genre d'engin, il y a toujours un risque d'accident, entre guillemets, puis un attentat un peu inassumable, donc rejeté même par tous les militants, toute la base du mouvement. Ça a été un premier choc. Et puis il y a surtout le deuxième choc des années 2000 avec à la fois la fin de la violence politique dans les deux pays qui servaient d'exemple, le Pays Basque et l'Irlande du Nord. Et puis il y a surtout aussi la montée en puissance du terrorisme islamiste qui brouille complètement les cartes et qui rend encore plus inassumable l'action clandestine aujourd'hui.
Une revendication identique, mais des actes plus légers. C'est la marque de fabrique d'Emgand, mais c'est surtout ce qui le différencie de son prédécesseur, le FLB. Erwan Chartier et Yaël Roblin expliquent.
Déjà, la principale différence, c'était donc justement l'action clandestine, donc avec des attentats symboliques. Hein. On n'est pas dans de l'action militaire avec la volonté de tuer des gens. Donc, qui était vécu non pas comme une lutte militaire ou une lutte armée, mais plus comme une propagande par le fait, un moyen de communication. Donc, qui vont redonner un coup de fouet, entre guillemets, et voir émerger une nouvelle génération encore. Donc là aussi, en général, très à gauche, mais avec un discours un peu différent de celui des années 70.
On n'était pas que des potiches, quoi. On arrivait, on avait des idées, on avait un parcours différent de celui de nos aînés qui, eux, avaient commencé plutôt à militer à la fin des années 70. Donc il y avait un peu un trou générationnel entre ceux qui ont commencé à militer à la fin des années 70, début des années 80, et ceux qui ont commencé à militer vers le milieu des années 90. Il y a quand même un sacré trou, quoi. Pour schématiser sur quoi on était nouveau, d'abord, Emgand c'est pas toujours défini comme indépendantiste. Ils se sont définis pendant longtemps, entre 1983 et 1991, comme un mouvement de libération nationale et sociale. Ils évitaient d'utiliser le mot indépendance, même si tout le monde était indépendantiste. Et la RB disait qu'elle était pour l'indépendance. À l'époque, ce que nous, on a apporté de nouveau, c'est qu'à partir de 1991, Emgand s'est dit indépendantiste, de façon complètement décomplexée. On n'avait pas de tabou à utiliser des mots comme ça. Ce qu'on a apporté, c'est de, en plus de réfléchir sur les fondamentaux du nationalisme et de l'indépendantisme radical breton, qui sont l'unité territoriale de la Bretagne, la langue bretonne, une reconnaissance institutionnelle par l'État français. En plus de ces thématiques-là, nous, on était très, très, très impliqués dans les nouveaux mouvements sociaux.
En général, on dit qu'un mouvement indépendantiste qui réussit, c'est quand il arrive à fédérer les intellectuels et les bandits. Donc les gens qui sont prêts à se mouiller dans certaines formes d'action, et puis les gens qui conceptualisent et qui portent le combat, quoi.
Déjà, dans l'ADN de l'organisation, on n'avait pas peur de se mettre en porte-à-faux avec la légalité. Pour nous, la légalité républicaine, de toute façon, c'est mal. Puisque la République ne reconnaît pas l'existence du peuple breton, de facto, quand on rentrait dans une organisation comme ça, on s'émancipait complètement de tout devoir de respect vis-à-vis de la légalité républicaine. Il y avait donc cette double pratique de théoriser une rupture sémantique avec le vocabulaire de la République et dans la pratique des luttes, soutien à tout ce qui pouvait être un peu illégal et à la marge, mais sans aucun complexe. On était ultra fiers de le faire, quoi. C'est ridicule, hein. Moi, je le dis avec le sourire, mais là, tu dis, ouais, là, je me bats vraiment contre l'État français, contre l'injustice. C'est un peu plus excitant que d'aller coller des affiches pour des élections législatives, quoi.
Pour l'UDB, le principal parti politique luttant pour la cause bretonne, les actions clandestines ne sont pas efficaces. La stratégie passe donc par les urnes, finit les actions pouvant être perçues comme violentes par le grand public. Naïk Legars explique que la violence est un dernier recours, mais pas une solution.
Il y a des moments où on peut penser que c'est approprié d'utiliser la violence parce que c'est la violence contre la violence. Hein. Faut jamais penser ça, parce que je pense aussi que, et ça n'a pas été assez réfléchi à une époque, mais que les moyens qu'on utilise justement pour arriver au but politique qu'on veut atteindre, hein, que ce soit l'indépendance, que ce soit toute autre chose, les moyens qu'on met en œuvre, ils conditionnent aussi le pouvoir qu'on met en place, quoi, et le type de société qu'on veut créer. La violence, elle est légitime quand elle s'exprime dans un rapport de force. Okay, bah, par exemple, au moment de l'occupation allemande, les résistants, ils étaient violents par nécessité. Donc après, il n'y a pas de condamnation intrinsèque de la violence, mais après, la violence, si elle s'exprime de manière... si elle n'exprime que de la colère, elle est vaine. Et donc, c'est pour ça que souvent, par exemple, les manifestations paysannes, bon, ben, y a de la colère qui déborde, il y a de la violence, mais c'est pas très productif. Il faudrait mieux utiliser d'autres moyens que, par exemple, la distribution de vivres, des choses comme ça, la population, pour se rendre. Mais bon, après, c'est souvent, voilà, c'est aussi un signe de faiblesse d'utiliser la violence.
La violence comme seule réponse dans un rapport de force, c'est ce que pense Gaël Roblin. Mais être violent, ce n'est pas juste lancer des pavés sur des CRS. Pour lui, face à l'oppression de l'État, désobéir est un devoir.
Est-ce qu'un mouvement social doit avoir des actions violentes pour réussir ? Je ne sais pas s'il doit avoir des actions violentes pour réussir. Mais je connais aucun mouvement social d'ampleur qui a réussi à bouleverser l'ordre établi sans passer outre la légalité de l'oppresseur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si c'est non-violent, à un moment, il faut désobéir collectivement et dire « mais la légalité, on s'en moque ». Alors après, il y a plusieurs façons de désobéir. Un exemple tout à fait d'actualité qui, sérieusement, pourrait soutenir qu'aujourd'hui, les seules manifestations pacifiques, les pétitions, les rassemblements, les interpellations d'élus auraient suffi à empêcher le début des travaux à Notre-Dame-des-Landes si des gens n'occupaient pas illégalement les terres. Mais personne de sérieux ne peut dire que ça aurait suffi. Ça n'aurait pas suffi, les travaux seraient engagés. C'est complètement illégal comme pratique. Et en plus, souvent sur la ZAD, c'est violent. Mais c'est pas systématique. Alors après, désobéir, c'est pas forcément être violent. Mais quand on désobéit, en général, il y a de la répression. Après, répondre de façon non violente à la répression, c'est très difficile. Donc il y a forcément des gens qui sont tentés de répondre de façon plus radicale. Maintenant, la violence armée en Bretagne, moi je pense qu'elle n'avait pas cette fonction-là. On faisait bien la différence entre violence armée du type celle qui existait en Irlande et au Pays Basque, c'est-à-dire un processus de lutte armée, où il y a des groupes armés d'une certaine importance qui s'affrontent avec le pouvoir central, et qui s'affrontent pas seulement en posant des bombes contre des bâtiments vides, mais qui peuvent s'affronter dans la rue, et se tirer dessus, et il y a des morts. En Irlande et au Pays Basque, ça s'est passé. En Bretagne, il n'y a personne qui a défendu ce schéma-là, même dans les gens les plus radicaux d'Emgand.
Ça permet de structurer le combat.
Erwan Chartier.
De structurer les idées, de former des militants, de former un corpus idéologique, de gagner en crédibilité aussi.
C'est un phénomène général. Hein. En Irlande, il n'y a plus de lutte armée. Au Pays Basque, il n'y en a plus non plus. Mais non, il n'y a plus nulle part de ce type de lutte.
Naïk Le Garce.
D'ailleurs, c'est un type de lutte beaucoup plus agressif et plus délicat à appréhender, qui est maintenant en œuvre. Donc, je pense que voilà, c'est une page qui est tournée aussi dans l'histoire, quoi. Et aujourd'hui, oui, c'est la lutte politique.
Unifier un peuple à une cause régionale, c'est ce que souhaitent les partis en théorisant la lutte. Le combat politique a donc pris la place du combat par les armes.
On a quand même réussi à faire accepter l'idée qu'il y avait une cause bretonne qui n'était plus seulement le fait de quelques marginaux, de quelques personnes un peu à part. C'est quand même rentré dans les mœurs. Fallait que ça devienne quelque chose de, je ne vais pas dire de normal, mais un exemple. Autrefois, c'était rare de voir un drapeau breton dans une manif. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle manif, vous voyez des drapeaux bretons. Donc le phénomène, la question identitaire, elle n'est plus taboue. Et ça, c'est très très important. C'est quelque chose de revendiqué, et puis c'est plus même spécifique au mouvement breton. Donc la question bretonne, elle est maintenant très, très répandue. Ce que je reproche souvent à cette lutte en Bretagne, enfin à la cause bretonne, c'est d'être trop plein d'affects. Bon, bah évidemment, hein, c'est normal qu'il y ait une part de sentimentalisme, qu'il y ait un peu de l'émotif, et à la fibre, comme on dit, bon, on aime son pays, nanana, bon. Mais être uniquement sur ce registre de l'affect, ça enlève une partie de l'esprit critique qu'il faut toujours avoir quand on est sur un registre politique. Et puis, ça empêche aussi de voir le rapport qu'il y a entre la cause qu'on défend, qui est nationale, ou enfin qui est liée à notre territoire, à notre peuple, et la cause universelle qui est celle de l'émancipation.
Aujourd'hui, les questions d'autonomie territoriale restent d'actualité. Christian Troidec, maire de Carhaix, souhaite se présenter aux élections présidentielles de 2017 pour défendre la question régionaliste dans le débat national. Il y a 3 ans, c'est déjà lui qui avait mené la fronde des bonnets rouges contre l'écotaxe, un mouvement médiatisé notamment à cause de nombreux actes de violence.
Pour Troadec, le chemin est encore long jusqu'à 2017. Les candidats à la présidence sont aujourd'hui plus de 40 et il lui reste 500 parrainages de maires à obtenir. Hugo, on vous retrouve dans quelques minutes avec Anthony Rio pour une interview délocalisée. On restera dans le thème de la lutte bretonne, mais juste avant, on va se détendre avec une pause musicale. On écoute tout de suite « How Does It Feel » de Kamaya.
Never change on my folks, you know how boys is. Got them things with a low, wise full of straight swings, with your legs on the hole. All this money in the world, it's a shame to go broke. Everybody got dreams, some just aiming too low. If fame is the goal, we can't get along. I aim to be paid, I aim to be great. Every day, all day, young and swing in my bread. Oh shit, pop champagne till it break. Oh, quick, ball our ways till we came to the grave. We'll be rich, we were made to be this. Back in praise with a gift that just can't be dismissed. Oh shit, it's Kamaya. Retire, high girl, set the city on fire. I've been broke all my life. Now I wonder, how does it feel to be rich? How does it feel to be rich? Oh, I done worked all my life. Now I wonder, how does it feel to just live? How does it feel to just live? Oh, everybody want money, want the fame and the clothes. Everybody losing friends, people change when they grow. To be known in the game, I've been waiting to lose. And I came for the throne. Told them once, told them twice, this is ain't what they want. They speak is discreet and they hate on the low. If hate's all you know, your face gotta go. I aim for a change, you stagnant the same. Every day, all day, young and swing in my chain. Oh shit, drink champagne till I can't. Oh, quit. Start the waves that you take, still I swag in our name. But you can't beat the game, for I'm wish when we swing. BMG do our thing. Oh shit, it's Kamaya. Oh shit, please retire. Set the city on fire. I've been broke all my life. Now I wonder, how does it feel to be rich? How does it feel to be rich? Oh, I done worked all my life. Now I wonder, how does it feel to just live? How does it feel to just live?
C'était How Does It Feel de Kamaya. Hugo, vous vous êtes déplacé avec Anthony Rio il y a un peu plus d'un mois à Plonéour-Méné. Vous avez rencontré Charlie Graal, un ancien militant du Front de Libération de la Bretagne, et Yvon Dubourg, ancien chef de brigade de la gendarmerie de Paimpol. On écoute maintenant votre interview.
Nous nous trouvons à Plonéour-Ménès dans le restaurant Tigre et Inde, non loin de l'antenne du Retrait du Don. Il y a maintenant 42 ans, le FLB a fait exploser cette antenne de l'ORTF. La population s'est retrouvée sans télévision pendant plusieurs semaines. Nous venons de vous parler du FLB dans le reportage d'avant, donc maintenant c'est quelque chose que vous connaissez. Nous recevons aujourd'hui Charlie Graal, ancien militant du FLB, et Yvon Dubourg, ancien commandant de la gendarmerie de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc Yvon Dubourg, vous étiez commandant juste avant votre départ en retraite, donc vous avez sûrement traqué des groupes clandestins durant votre carrière. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rencontre aujourd'hui avec Charlie Graal?
Ben, elle me rend compte, c'est quelque chose de très particulier. Hein. Il y a quelques années, on n'aurait pas pensé se rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux en retraite, on est dans une position totalement différente. Et je cache pas que c'est avec un réel plaisir qu'on va avoir l'occasion de discuter un petit peu ce matin.
Et vous, Charlie Graal, justement, vous êtes un ancien militant du FLB. Vous avez dû essayer d'échapper à la police dans le passé. Qu'est-ce que ça vous représente pour vous, justement, aujourd'hui, d'être face à un ancien des forces de l'ordre?
Aucun problème, ça ne pose aucun problème. Je trouve ça même très bien qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter de notre jeunesse, en fait, parce que j'imagine que quand lui me traquait à l'EFLB, il devait avoir à peu près le même âge que moi, donc se remémorer nos années de jeunesse, c'est toujours un plaisir. Puis après, bon, je ne me fais pas d'illusions, il n'y a pas de société sans police, il n'y aura pas de société sans gendarme, donc ça ne pose aucun problème.
Charlie Graal, aujourd'hui, vous avez été au FLB et maintenant vous êtes plutôt à l'UDB. Aujourd'hui, on théorise la lutte, on apprend la politique aux jeunes. C'est ça maintenant? Pourquoi aujourd'hui on théorise la lutte?
Oui, je pense qu'on théorise la lutte aujourd'hui, mais pas plus qu'autrefois. Bon, sauf qu'autrefois, on avait fait un pas supplémentaire parce que, comme je le dis souvent, quand un géant vous marche sur le pied et qu'il vous écrase le pied, vous avez quand même le droit et même le devoir de lui mettre quelques coups de pied ou quelques coups de poing avec le pied qui reste et puis avec les poings qui vous restent, parce que quand on vous écrase le pied, c'est insoutenable, quoi. Là, ce qui se passait, il faut le rappeler, les circonstances qu'il y avait avant 1980, où le Conseil régional de Bretagne démocratique, comme aujourd'hui, que au niveau de la télévision, la langue bretonne avait une portion congrue, c'était quelques secondes de breton, quelques minutes de breton dans la semaine, c'était scandaleux. Et je ne parle pas du chômage, de l'exil, de toute la jeunesse qui était condamnée à travailler à l'extérieur de la Bretagne. C'était des conditions très difficiles. Et au plan sur le plan social, c'était vraiment très agité. Il y avait au moins 1000 raisons de se révolter et de taper du pied et du poing sur ce géant, ce qui s'appelle l'État français, hyper centralisé, et qui n'a pas beaucoup changé, faut dire les choses comme elles sont, depuis, quoi. Et je crois que bon, c'était tout à fait légitime que les gens se révoltent et essayent d'attirer l'attention des pouvoirs publics, mais aussi de la population, sur ce qui se passait en Bretagne.
Vous attiriez l'attention, justement, grâce à des attentats, des actions fortes, marquantes. Justement, après les derniers attentats qu'on a connus, notamment en France et en Belgique récemment, le terrorisme, c'est l'ennemi commun de toute la population. L'État français joue la carte du « allez, on se serre tous les coudes », notamment avec les forces de l'ordre, hein, qui ont été quand même acclamées après les attentats de Charlie Hebdo, notamment en janvier 2015. Quelle résonance aurait aujourd'hui un attentat du FLB? Je ne sais pas qui, Yvon Dubourg, si vous voulez répondre à cette question.
Alors, un attentat du FLB, aujourd'hui, moi, je ne peux pas le concevoir. Je pense que le FLB, dans les années 80, a changé totalement d'optique aujourd'hui. Nous sommes quand même face à des gens qui ont obtenu quelque chose. Je ne dirais pas qu'ils ont obtenu satisfaction dans la totalité de leurs revendications. Mais en tout état de cause, je pense que le FLB n'est pas prêt aujourd'hui, n'a pas cette conception d'attentat pour disons-le, tuer ouvertement des êtres humains. Quoi. C'est inconcevable et incompréhensible.
Mais même ce qu'on a connu là, juste à côté, au retrait du Don en 74, ça aurait été, dans le contexte de l'époque, ça aurait été possible aujourd'hui, avec, encore une fois, les derniers attentats?
Bon, je ne pense pas que ce soit d'actualité. Je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui, dans le milieu breton, à ce type de réflexion. Et bon, il faut quand même faire une grosse différence entre les attentats aveugles et indiscriminés de ce qu'on appelle la mouvance islamiste, à tort ou à raison, et puis ce qui se faisait ici en Bretagne, qui était quand même, qui n'avait absolument rien à voir, qui était quand même pour des attentats ciblés, contre des murs, contre des maisons, mais jamais le FLB ne s'est attaqué aux personnes. Et les seuls morts qu'il y a eu sont des morts de notre camp, qui sont morts par accident en explosant avec leurs bombes. Mais autrement, il n'y a jamais eu de blessés ni de morts. Donc je pense qu'il faut bien faire la différence, parce que c'est incomparable, quoi. Et c'est ce qui rend odieux les attentats indiscriminés de la mouvance islamiste, c'est ce côté, comment dire, aveugle qu'il y a, cette violence aveugle que n'importe quel militant, même ayant pu employer à un moment donné une certaine forme de violence, ne peut pas accepter, quoi.
La loi renseignement a été votée l'an dernier. Il y a eu des moyens technologiques qui ont été donnés à la police, comme les IMSI catchers, ces valises qui permettent d'identifier les téléphones et d'intercepter les conversations. Mais ça n'a pas permis d'éviter des attentats en France et en Belgique. Qu'est-ce qu'il manque, Yvon Dubourg, aux enquêteurs aujourd'hui pour être plus efficace, si ce n'est pas la technologie?
Oh, c'est relativement simple, hein. Il y a une nouvelle technologie qui s'est mise en place, effectivement. Qu'est-ce qui manque? Il manque du personnel, il manque le temps. On ne peut pas avoir un enquêteur derrière chaque islamiste, chaque futur terroriste ou chaque terroriste. C'est impossible à gérer. Là, l'État fera ce qu'il voudra. N'importe quel parti politique sera au pouvoir, on sera dans la même situation. Ce sera quasiment impossible de gérer cette situation en ayant un risque minimum, c'est impossible.
Aujourd'hui, on pointe du doigt les manifestations qui dégénèrent. Alors, on jette la pierre un coup sur les manifestants, un coup sur la police. J'aimerais avoir vos avis à tous les deux là-dessus, sur cette question.
Alors oui, on voit à la télévision régulièrement des manifestations qui dégénèrent, et puis on appelle ça la violence policière. Alors je ne suis pas forcément disculper les forces de l'ordre. La moindre des choses, c'est de dire que s'il n'y avait pas de manifestations, bien sûr, il n'y aurait pas de violence. Pour moi, il y a des manifestations, pacifiques. Et il y a dans ces groupes des gens qui viennent, et on les appelle bien sûr les casseurs. Donc il y a quoi ? Il y a une riposte, forcément. Il y a une riposte parfois en cas de légitime défense aussi, il faut bien le reconnaître. À ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des blessés de part et d'autre. Et je crois qu'on pourrait effectivement discuter sur ce problème, mais l'État, une fois de plus, doit revoir certaines choses indiscutablement.
Dans votre carrière, justement, vous avez été amené à encadrer des manifestations. Prenons l'exemple de celle contre la loi El Khomri. Comment ça se passe ? En fait, d'où viennent les ordres et quels sont-ils, ces ordres que peuvent connaître les forces de l'ordre actuellement ?
Alors, il faut savoir que, au niveau gendarmerie, je pense, puisque c'était dans cette institution-là que j'ai travaillé, au niveau gendarmerie, il y a eu les années 80, les années 90, et ensuite il y a eu les autres années où l'autorité préfectorale qui a pris la direction des opérations. Donc les ordres viennent du gouvernement dans un premier temps, qui transmet les ordres à l'autorité préfectorale et qui sont ensuite répercutés sur le responsable de la gendarmerie. Alors effectivement, il peut y avoir ensuite certaines décisions de prise sur le terrain en fonction des événements. Je pense notamment lorsqu'il y a légitime défense, lorsqu'il y a des points à défendre, lorsqu'il y a la vie d'êtres humains en jeu. Mais généralement, lorsqu'il y a une charge de fait, il y a des directives bien données auparavant aux responsables de la gendarmerie.
Est-ce que les forces de l'ordre sur le terrain ont une marge de manœuvre personnelle, je veux dire, au-delà des ordres qu'ils reçoivent ?
Très peu de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre qu'il peut y avoir, c'est le responsable des forces de l'ordre qui peut avoir une petite marge de manœuvre. Il va quand même avoir la possibilité de prendre des décisions lui-même. Mais elles sont minimisées. Tout est prévu. Il faut savoir qu'avec les renseignements généraux, tout est prévu pour une occupation du terrain. Ils vont savoir le déroulement de la manifestation.
Alors, je vais poser une dernière question très très rapidement. Aujourd'hui, on voit le phénomène des nuits debout. Donc, on crée des assemblées générales, des débats. Est-ce que c'est un bon moyen de lutter, selon vous,
Charlie Gall?
Oui, ça me paraît, a priori, c'est un moyen, bon, d'abord pacifique, hein, au départ, donc il n'y a aucun problème, c'est un problème, mais ce n'est pas une chose nouvelle, hein, on a l'impression de découvrir la Lune tous les jours, mais c'est comme la violence, ce n'est pas une chose nouvelle. Je crois que c'est vous, les futurs journalistes, qui devraient vous interroger sur le rapport que vous avez avec les phénomènes violents. L'amplification des micro-phénomènes qu'on voit dans les manifs, par les médias, notamment les médias audiovisuels, font qu'on croit que la société est une hyper violente. Mais je vous rappelle que dans les années 60, il y avait des manifestations de paysans qui étaient, à mon avis, d'une violence beaucoup plus forte que celle qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, les gardes mobiles et les unités spécialisées de maintien de l'ordre n'ont pas peur des jeunes qui manifestent à droite à gauche, contrairement à la peur qu'ils avaient des manifestants autrefois. Et je pense que la société n'est pas devenue plus violente qu'autrefois, sauf que vos médias, je dis bien vos médias, ont une responsabilité dans la montée en puissance de la crainte de la violence, alors qu'il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'autrefois.
Mais actuellement, depuis deux mois, il y a eu 300 blessés chez les forces de l'ordre, plus de 1000 interpellations sur les dernières manifestations. Ces chiffres-là, on les voyait pas forcément.
On les voyait peut-être pas.
Dans les mobilisations précédentes.
Mais ça existait.
On ne les voyait pas non plus, parce qu'il y avait certainement beaucoup moins de manifestations aussi, il faut le savoir. Aujourd'hui, il y a une manifestation tous les jours, quasiment à Nantes, Rennes, Paris, Toulouse, on a des manifestations tous les jours. Donc, comme dit M. Graal, les médias s'emparent de ça. Il y a quelques années, le monde paysan manifestait aussi. C'était effectivement très très violent aussi, mais on en parlait beaucoup moins.
Un mot sur Nuit Debout, comment vous vivez ça, comment vous voyez ça, quelle est votre impression justement sur ce mode de mobilisation?
Moi je dis que c'est très bien, à partir du moment où c'est pacifique, c'est parti d'une idée, d'une très très bonne idée. Maintenant ça dégénère, là on arrive dans un autre problème, lorsqu'il y a des blessures, et c'est un autre débat.
Merci à tous les deux, Yves
Merci Dubourg beaucoup.
Et Charlie Grade d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et nous remercions aussi le restaurant Le Tigréon qui a permis de réaliser cette interview.
Merci à Charlie Graal et Yvon Dubourg d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà bientôt la fin de notre émission. Si vous souhaitez réécouter l'émission en podcast, rendez-vous sur le site internet de RCF, rcf.fr. Regain de Tension est aussi sur les réseaux sociaux avec son Facebook officiel. Merci à vous, Hugo. On se retrouve très vite pour la dernière émission de Regain de Tension. On vous parlera de la violence sociale en entreprise. Mais avant de partir, comme à chaque fois, quittons la France avec nos envoyés spéciaux à l'étranger. Aujourd'hui, c'est au tour des Madrilènes de prendre l'antenne. Constance Meyer et Amélie Tagu nous parlent des expulsions à Madrid, Hugo.
600 000, c'est le nombre de procédures d'expulsion enclenchées par la justice depuis l'éclatement de la bulle immobilière espagnole en 2008. L'année d'après, un collectif de victimes a vu le jour en Espagne, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Elle transforme alors les expulsés en militants. Ensemble, ils se mobilisent sans violence pour contrer les procédures juridiques. Une union qui leur ouvre aujourd'hui les portes de la sphère politique espagnole. Reportage à Madrid. Reportage à Madrid de Constance Meyer et Amélie Tagu.
Comme chaque mercredi, l'APA, la plateforme d'aide pour les victimes d'hypothèques, ouvre sa réunion hebdomadaire à 17h et déjà, une soixantaine de personnes s'entassent dans la petite salle. Jeunes, moins jeunes, espagnols ou étrangers, tous sont dans une situation instable et en procès contre leur banque. Et parmi eux, Maria Morán Sánchez, une péruvienne de 52 ans installée en Espagne, qui s'est fait expulser en 2012.
El momento del desahucio tal vez no nos afectó tanto perder la casa sino la forma que se hizo porque fueron los
momentos. Au moment de l'expulsion, ce qui nous a le plus affecté, ce n'était pas de perdre notre maison, mais plutôt comment cela s'est déroulé. Ça a été un moment des plus cruels que j'ai vécu car il y a eu la police locale et nationale qui est venue. C'est ce qui m'a le plus blessé car ils nous ont traités comme si on était des délinquants alors qu'on n'avait rien volé.
Aujourd'hui, Maria ne sait toujours pas si elle devra rembourser 98 000 euros de dette auprès de sa banque. À l'APA, elle a aussi bénéficié de conseils pour son procès grâce au juriste bénévole Miguel Bessia.
En l'APA, desde mi lado, se les ayuda las personas que no tienen medios económicos porque desconocen.
Mon rôle à l'APA, c'est d'aider les personnes qui ont des problèmes d'argent, parce qu'en majorité, elles ne connaissent pas les procédures juridiques. Leurs avocats commis d'office ne sont pas toujours compétents et ça conduit parfois les victimes au gouffre.
Le collectif a déjà fait évoluer la loi. Depuis 2013, les pratiques abusives des banques espagnoles sont condamnées par la Cour européenne de justice. Une force que le collectif trouve surtout grâce au réseau social de messagerie WhatsApp. Un plus que relève Angel Sanchez Delgado. Cet équatorien de 53 ans risque de se faire expulser. À cause de la perte de son emploi, il n'a plus assez d'argent pour payer son loyer.
Nous sommes en contact avec eux pour sortir, aussi pour actuer, mais en bonne paix.
Par WhatsApp, on se met en contact pour se voir et agir de façon pacifique. Ma lutte, c'est et ça restera l'union de toutes les victimes pour obtenir un logement digne.
En 6 ans, l'APA de Madrid a paralysé 2045 expulsions et relogé 2500 personnes. Aujourd'hui, le collectif est même entré dans l'arène politique espagnole. La co-dirigeante de l'APA de Barcelone, Ana Cada, est devenue maire de la ville en juin 2015. Ana Cada réunit des représentants d'autres mouvements sociaux espagnols, comme par exemple le parti anti-austérité Podemos. Elle propose une alternative aux partis politiques traditionnels, une union sans étiquette et sans couleur politique.
Vous venez d'écouter Regain de Tension, une émission réalisée par les étudiants en licence professionnelle journalisme de l'IUT de Lannion.